Troisième épisode, mobilisation citoyenne, les attentes et les résistances face au nouveau campus. Réalisation, Christophe Laberge, Schneider José et Carla Maldonado Arana.
Je pense que la construction de condos est inévitable. Puis, oui, ça fait un bâtiment de plus, mais c'est ça la ville. Si t'es pas prêt à accepter les condos, à habiter en région puis à Sydney.
On peut parler du 10% de l'iceberg qui est emploi, insertion, cohabitation, mais si on travaille pas sur les loyers et le logement, c'est vraiment le nerf de la guerre de l'embourgeoisement.
Our neighborhoods don't have parks. You want to put some paint on the ground to make bicycle lanes? Oh no, wait. They don't want bicycle lanes. This isn't about bricks. This isn't about lines. This isn't about pavement. All this is about this skin, human beings. The value of a human being is worth more than any of these bricks you can put together, whatever color, whatever window you want. And that is why we're here. That's why all of us are here, for the benefit of the human beings.
Je suis venu à Parkex, comme beaucoup de personnes le font maintenant. On voit beaucoup d'artistes et d'autres réfugiés du Maryland qui viennent à Parkex parce que les loyers sont moins chers. Et maintenant, je suis un embourgeoiseur. Alors, j'ai été embourgeoisé deux fois. Maintenant, je suis un facteur d'embourgeoisement. Alors, j'essaie de penser pour ma présence ici qui pourrait prendre la place de quelqu'un d'autre, d'une autre famille. Je siège sur plusieurs CA d'un magasin de partage, du comité de logement, du quartier, des groupes de défense des droits, des locataires précaires de Parc Extension, avec le centre William Ingston, qui est au troisième étage du centre communautaire. Mais je vous encourage d'y aller un jour. C'est un édifice, une ancienne polyvalente qui a été transformée en école primaire et aussi centre de francisation qui dessert tout un territoire, pas seulement des gens de Parc Extension. À plusieurs groupes communautaires dans le sous-sol à l'endroit. C'est vraiment le centre névralgique du communautaire à Parc Extension.
À l'intérieur des dernières deux années, on a vu un vrai changement au niveau de quel type de problèmes vivent les locataires. Avant, on faisait, au niveau du soutien aux locataires, on faisait beaucoup de soutien au niveau des conditions de logement. Et ça a créé beaucoup plus d'urgence au niveau de notre mobilisation aussi.
Moi, je suis bénévole un jour semaine avec le collectif Bienvenue, qui fait le lien entre des gens qui ont des meubles à donner et des nouveaux arrivants en attente de statut de réfugié. Alors, ils s'installent, ils n'ont absolument rien, puis nous, on vient avec le camion et on livre des meubles. Mais ça fait un an et quelques que je fais ça à chaque jeudi et j'ai pas encore fait une livraison à Parkex. Les réfugiés ne peuvent plus se payer Parkex, tandis qu'avant c'était le terrain d'accueil, le tremplin. Ici, il y a des gens qui ont dit ben on pourrait au moins essayer d'imaginer autre chose. Alors, ils ont mis des pancartes. Alors, imaginez un centre d'emploi, imaginez une coop d'habitation. Mais c'est des petits actes de résistance comme ça. Mais ça vient de petits noyaux de personnes. C'est pas organisé comme dans d'autres quartiers, comme dans le sud-ouest, malheureusement.
On est 24 000 à Outremont, on est près de 4 000 familles avec enfants. La concentration des aînés est plus qu'importante. Protégez-nous. N'avez-vous pas entendu les deux urgentologues à la séance d'information l'autre fois? Prévoyez des vignettes uniquement pour les résidents. Écoutez les résidents et les demandes selon leurs spécificités. Ne permettez pas aux 10 000 usagers du Mille d'acheter des vignettes. Encouragez-les à prendre le transport en commun. Ne taxez pas l'hospitalité avec un plan qui se nomme simplification, parce que pour nous, ça rend la vie drôlement plus compliquée.
On a fondé la coalition Marconi-Beaumont, qui est toujours sur Internet. J'ai fait ce site web aussi. Et on a fait des sorties médiatiques On a vraiment eu une belle couverture de presse pendant un an et demi, puis on a poussé la ville jusqu'à temps qu'ils créent. Le P2S n'existait pas comme forme avant. Ils l'ont créé de toutes pièces. Au début, ils voulaient simplement faire un PPU, parler d'urbanisme, mais on a forcé l'économique et le social aussi pour répondre aux besoins de notre comité. Et depuis, ils l'ont réutilisé à 2-3 reprises, mais c'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait pour nous pacifier.
C'est sûr qu'on revendique depuis longtemps plus de logements sociaux dans le quartier. Il y a au moins 800 personnes qui restent sur la liste d'attente pour le logement social, parfois depuis des années. Mais on voit de plus en plus qu'il faut absolument qu'on mette du pression pour qu'il y ait des actions qui sont prises pour freiner la gentrification et arrêter le déplacement des locataires.
La coalition Marconi-Beaumont, il faudrait peut-être la faire renaître. C'était les groupes communautaires, surtout les comités de logement de Villeray, Rosemont-Petite-Patrie et Parc Extension. On s'est coalisés pour dire on a perdu la guerre pour le campus en tant que tel, mais au moins les quartiers limitrophes où on va ressentir les changements, on voudrait au moins avoir un aménagement social dans ces sections-là. Mais à date, on a seulement eu les changements de zonage, puis on n'a pas eu les investissements. Même le parc, ça prend 6 ans à avoir un parc, puis ils n'ont pas commencé les travaux. Logement social, il n'y a rien non plus. Alors, ouais, le P2S, c'était vraiment une grande déception.
Ce parc canin unique à Montréal a été créé dans le but de permettre un endroit où les chiens auraient le loisir de s'ébattre et socialiser sans laisse, et où les humains auraient aussi la chance d'y faire des rencontres sociales.
Montréal doit prendre soin de ses chiens. Les chiens ont toujours fait partie de la vie des humains en ville.
Posséder un parc exemplaire par sa taille et son aménagement durable est un atout que l'on se doit de chérir et de conserver. Vous pourrez toujours compter sur le soutien de ses nombreux usagers.
Moi, je trouve ça grave de détruire un parc qui... C'est un des plus gros parcs à chiens de tout Montréal. Je trouve ça vraiment dommage de détruire un endroit historique comme ça pour juste installer un building genre un peu partout ailleurs. Là.
On n'a pas le choix que de traverser pour rendre l'avenue sécuritaire. Mais nous, on se dit, si c'était une montagne ou si c'était quelque chose qui tenait à la ville, aux dirigeants de la ville, on trouverait des solutions pour le contourner, cet endroit-là, pour rendre sécuritaire cette avenue-là.
Et ces 125 voitures arrivent sur ma rue Bloomfield, et là, j'arrive pour stationner à partir de 5h30, et je trouve rien. Alors, je vais sur la rue à côté, l'autre rue à côté. L'autre soir, j'étais 4 rues à côté. Et ça, c'est uniquement un restaurant. Là, j'ai une université avec des milliers de nouveaux arrivés, surtout tous les professeurs. L'idée que ces gens-là peuvent aussi, avec permission en payant un montant stationné sur ma rue, m'enlève encore de la place. Pour le moment, il n'y a pas de vignette, je ne paye rien. Là, je vais arriver à payer quelque chose dont j'étais très heureux de payer si j'étais capable d'avoir une zone réservée.
Mais je pense qu'il y aurait pas mal les mêmes points positifs pour autrement que pour ParkX, donc une augmentation du prix des logements, ce qui peut être bon pour certains puis mauvais pour d'autres. Ouais, ça va monter en flèche. Là. Je pense que pas partout à Outremont, mais principalement en dessous de Van Horn, ça risque de monter sévèrement. D'ailleurs, mon beau-père il m'a dit, avant on avait le triplex en haut, on l'a vendu il y a 4-5 ans. Il a dit que s'il avait su beaucoup plus d'avance que le projet allait commencer en 2016, il l'aurait gardé parce que ça allait prendre la valeur plus tard.
Ben, Il y a une certaine inquiétude, ben moi puis les résidents du quartier. La principale inquiétude, c'est ça, c'est la hausse des loyers. Parce que la majorité, en fait, la quasi-majorité de tous les immeubles à Parc Extension, c'est des immeubles à loyer. Donc, c'est des appartements. Et donc, naturellement, ça, c'est la préoccupation numéro un. Il y a quelques maisons, mais ça, c'est genre des rues spécifiques, il y a des maisons, mais le reste, c'est le parc locatif, là, en fait. Et donc, tout ça va être impacté parce que, naturellement, il y a une université qui arrive, la valeur immobilière va augmenter par la présence d'une université. Donc, avec la hausse des valeurs immobilières vient la hausse pour les coûts de la vie, en fait, tout ce qui est... Si les épiceries locales commencent à disparaître, ben, tu auras des épiceries qui vont coûter plus cher, qui vont vendre leurs produits plus cher. Et donc, c'est vraiment... Mais principalement, c'est les loyers. Puis c'est pas seulement juste les loyers, mais la possibilité même d'habiter le quartier, en fait. Moi, j'habite plus au nord, mais personne n'est à l'abri de ça. On sait pas quand est-ce que, genre, le propriétaire peut décider, mais là... c'est fini. Lui, il veut se faire plus d'argent, fait qu'il peut sortir les gens, rénover son immeuble, puis louer ça deux fois le prix. Donc, ça reste un peu à l'arrière, là, comme un nuage, là, mais comme qu'on oublie. Mais c'est là, on le sait que comme il y a un risque, comme déjà partout à Montréal, c'est un peu le cas. Mais avec le 1000, ça fait juste légèrement plus accélérer le processus de gentrification du quartier.
Au niveau des personnes qui ont rentré que nous avons vu pendant l'été, nous avons travaillé avec 89 résidents du quartier qui ont fait face aux évictions liées à la gentrification. C'est un des quartiers les plus pauvres ici à Montréal et même au Canada. Mais à la même fois, c'est aussi un quartier qui a énormément de réseaux d'espace, comme de réseau d'entraide. C'est quelque chose qui mérite vraiment d'être préservé. Et une des choses qui m'inquiète le plus, c'est la possibilité que ce tissu social soit détruit par la gentrification.
Fait que je tiens à déposer officiellement une pétition. Là, je suis un peu découragée parce que j'entends plein de gens qui sont venus déposer des pétitions il y a quelques mois puis qui n'ont pas eu de suivi. J'espère que cette fois-ci, vous allez faire le suivi.
Nous avons essayé à plusieurs reprises de rencontrer l'administration. Nous croyons que c'est vraiment important que l'Université de Montréal reconnaisse que son arrivée dans le quartier a énormément de conséquences négatives.
On n'a jamais pensé aux personnes qui allaient venir ici avec le PDUS. On pensait au moins avoir une meilleure planification, mais à date, rien n'a changé sauf les changements de zonage. Alors les gens viennent, mais sans changer les infrastructures.
Le bien-être des résidents du quartier n'était vraiment pas une priorité dans le développement et dans la construction du nouveau campus.
Mettez-nous à profit, on est ouvert, on est motivé, on veut participer, on veut être écouté, on veut être respecté. Mais s'il vous plaît, ne passez plus jamais sous silence un changement aussi drastique qui sera adopté un mois après son annonce sans nous consulter.
J'ai fait combien de charrettes avec la faculté d'urbanisme, parlant d'aménagement. Là, on va passer une journée ensemble, brainstorm. Là, on fait des beaux plans. Puis là, j'ai dit, OK, vous allez donner ça au recteur. Oh non, tablette.
Il n'y a pas vraiment eu de communication avec les gens du quartier, à ce que je sache. Les gens du quartier ne savent même pas qu'il y a le campus 1000, en fait. Puis ça, c'est la réalité du quartier. C'est la barrière de la langue, c'est un gros enjeu. Qui fait que même s'il y a, c'est bien aménagé, puis il y a des espaces, puis on invite les gens, le message ne se rendra pas.
Et eux, ils ont des réunions mensuelles avec les résidents d'Outremont. Ici, on
donc
a eu une présentation dans les 8 dernières années. Ils ont envoyé des étudiants qui ne pouvaient pas répondre à des questions. Et eux, ils ont des réunions mensuelles.
Il y avait eu une représentante de l'Université de Montréal qui a siégé sur la table de recherche communautaire. Le CAPGC a décidé à plusieurs reprises de le rencontrer. La rencontre a été annulée, il n'y a pas eu d'autre qui a été fixé. Il n'y a rien de mal en soi des nouveaux espaces verts, mais je me demande, la majorité de construction des nouveaux parcs dans le quartier les engagements ont été pris après l'annonce de l'arrivée du campus et je me demande pourquoi ce n'était pas une priorité avant ça. Certainement, par exemple, l'Université de Montréal a utilisé l'espace Virage comme manière de se faire montrer comme étant plus vert, plus branché, d'attirer des nouveaux investissements.
Donc, juste là, on peut voir sur le plan qu'ils ont juste deux parcs dans tout parc X, puis ils sont tout petits. Autrement, on en a plein. Là. C'est pas une question de chance. Là.
Il y a eu très peu d'efforts même de faire savoir que ce projet existait. Et aussi, comme j'ai mentionné, étant donné que ces majorités, les personnes qui sont impliquées dans les projets éphémères, c'est majoritairement des gens de Myland, d'Outremont, des personnes qui sont plus aisées financièrement, qui sont souvent plus blancs, plus francophones. Souvent, juste les gens, les résidents à long terme de Parc Extension, juste ne se voient pas là-dedans, ne sont pas à l'aise. C'est aussi très difficile à trouver. J'ai l'impression qu'il y a très peu de liens avec le reste du quartier.
Il y a quand même une université qui nous sépare, puis un bon 800 mètres.
And what people want is they want to be heard.
Vous comprenez qu'on n'a que le négatif, mais il y a du potentiel pour du positif, mais sans une réelle volonté de la part de l'université, on ne l'aura pas.
Moi, je pense que dans 10 ans, l'ambiance va être juste plus agréable. Le monde va se sentir plus accepté. Et ça serait... J'espère que c'est pas hypothétique, puis j'espère que ça va être comme ça.
Ça prend une volonté au niveau du pouvoir d'amener des mesures pour faire en sorte que, oui, les gens qui veulent s'établir dans Parc X qui s'établissent, mais que ça soit pas au détriment des populations qui sont déjà très vulnérables dans le quartier. Donc, c'est genre le juste équilibre qu'on doit trouver, parce qu'on peut pas dire non plus, ben, ah, vous, les gens, vous pouvez pas venir vous installer, ça c'est juste un quartier pour nous, puis that's it, là, non. Tout le monde a le droit de vivre là, mais de vivre de manière à ce qu'on se respecte. Puis une des choses importantes du respect, c'est ne pas nuire des gens qui sont déjà vulnérables.